France Inter.
Moi, je suis souvent désespéré parce que j'ai l'impression de faire un énorme travail intérieur pour être un personnage différent à chaque fois. Et les gens me disent « Ah, on vous reconnaît bien, on vous retrouve bien » et tout ça. Donc, tout ça n'est qu'un immense ratage. Ce ratage est plein de la bonne volonté de créer des personnages très différents. Derrière tout ça, évidemment, moi, c'est le plaisir de construire des personnages.
Un bistrot, quoi. Un cadre, des produits, des vins, des gens. C'est un objet qui a une unité. Et cette unité, les gens, ils viennent, ils disent « On est bien, là !» Et on ne sait même pas pourquoi on est bien, là. Bien sûr, on mange bien. Bien sûr, on boit bien. L'endroit est sympa. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi on est bien. Mais on est bien, là.
Il y a longtemps qu'il nous est familier, le petit gars de Courbevoie des années 50, devenu un visage du cinéma et du théâtre en France. 19 fois comédien chez Robert Guédiguian, il est aussi inoubliable dans Un air de famille de Clapiche, d'après la pièce de Jaoui et Bacri. Il promène ici et là un air de clown triste, car il est aussi doué dans le comique que dans le tragique. Il lui arrive de jouer des classiques, mais il aime l'écriture de son époque, les auteurs vivants. Actuellement, le comédien crée avec Christine Murillo une pièce de Jean-Claude Grimbert, Dans le couloir, au Théâtre Héberto à Paris, mise en scène de Charles Torgeman. Un couple âgé voit l'un de ses enfants revivre chez eux, dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Duo de charme, dans cette très belle pièce tragicomique que je vous invite à voir. Bonjour Jean-Pierre Darroussin.
Bonjour.
Le Grand Atelier propose à l'invité d'accueillir qui il veut à sa table. Je salue Gilles Bénard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ami de longue date de Jean-Pierre Darroussin. Depuis le collège de Courbevoie, vous avez vécu vos vies en parallèle, en amis. On va s'apercevoir, Gilles Bénard, que vous avez exercé plusieurs métiers, parmi lesquels celui de patron de restaurant ou de psychanalyste. Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Jean-Pierre Darroussin, si j'étais votre ami, est-ce que je vous appellerais Dada ?
Oui, on a quand même pas mal qui continuent à m'appeler Dada, et même des gens qu'on pourrait, enfin qui sont même des amis de loin en loin, qui n'arrivent pas à m'appeler autrement que Dada, comme ils m'ont connu.
Parce que Gilles Bénard, qui vous a connu petit garçon avec des culottes courtes, vous dit ça va, Dada ?
Oui, il m'appelle Dada, oui.
Je suis venu chez vous il y a quelques années, une dizaine d'années, Jean-Pierre Darroussin, pour voir ce que vous lisiez. On était devant votre bibliothèque, et ce que vous avez sorti, surtout, c'était des livres d'art. Et vous m'avez dit, vous voyez, ça m'aide à construire mes rôles. Tel ou tel peintre, je sors un livre et je regarde si je peux m'habiller de telle manière, si je peux avoir tel geste. Est-ce que vous avez toujours cette habitude depuis d'utiliser l'art pour art à vous ?
Oui. J'ai gardé cette habitude d'aller chercher les éclairages dans la peinture, d'aller chercher des attitudes, d'aller une inspiration de personnage, d'humanité. Elle se passe pas mal du côté de la peinture. Oui.
C'est rentré quand dans votre vie la peinture, l'art ?
Mais ça remonte quand même à très longtemps. Il se trouve que après le lycée, j'ai fait pendant très brièvement des études d'histoire de l'art. Je me spécialisais dans la faïence et dans les potiers grecs du 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ.
Ah oui, c'était très précis.
C'était très précis, et donc je regardais tout ça, mais quand même, ça m'a amené à m'intéresser aux peintres et à la façon dont les gens peuvent capter un réel, la vie autour d'eux et essayer de vouloir donner leur vision, de vouloir donner leur éclairage sur le monde à eux, quelque chose de particulier. Donc ça a participé aussi, moi, à me forger d'une certaine façon. Et donc je sais aussi, parce que quand ça m'est arrivé dans ma vie de réaliser un film ou un truc comme ça, ou de travailler avec des gens qui réalisent des films, et donc on regarde quand même beaucoup de peintures pour décider d'une certaine couleur, d'une certaine lumière. On est inspiré souvent par la peinture.
Je me souviens de Patrice Chéreau, metteur en scène de théâtre, d'opéra, réalisateur de films, qui avait des cahiers sur des tables différentes selon les projets. Et dans ces cahiers, il y avait effectivement des reproductions de tableaux. Et il y avait aussi des faits divers. Il y avait des drames à l'international et tout ça. Il collait sur son cahier pour s'inspirer, pour commencer à écrire le film.
Oui, mais c'est important de se mettre des marqueurs et de... Je suis un petit peu trop lâche avec avec ces inspirations, et donc je me laisse aller sur le moment, et alors que je devrais repérer dans le temps ce qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis à ce moment-là.
Est-ce que votre ami Gilles Bénard est prompt à l'autocritique ?
Je le suis devenu, ça a pris quelques décennies. Mais pour parler d'art rapidement, moi je trouve que t'as raison d'être comme ça, et de pas trop programmer justement, parce que c'est ton style, hein. Le style, c'est l'homme, hein. Devant la part moche du monde, c'est-à-dire la pulsion de destruction qu'on a tous en nous. On voit aujourd'hui quels dégâts ça fait, que ça soit à la direction des États-Unis ou dans les différents conflits. Freud disait, face à ça, il disait, ce qui compte, c'est le beau. Pour finir, je dirais que aussi, celui qui nous a appris un petit peu à aimer ça quand même, hein, dans nos milieux, encore une fois, je reviens à ton père Paul, quoi, qui était étameur, hein, qui faisait de l'étain, qui avait une façon de travailler, en fin de compte, très artistique, je trouve, hein, dans sa manière d'être au monde. Hein.
Ah, c'est la grande différence entre l'artisan et l'artiste. Est-ce qu'il y en a une de différence, Jean-Pierre Darroussin ? Parce que beaucoup d'artistes disent « moi, je suis artisan, je suis pas artiste ». Et quelquefois, ça sonne un peu comme une fausse modestie.
Alors moi, je me sens artisan parce que je sens que je réponds à une commande. Et que la commande, c'est pas moi qui me la donne à moi. Un artiste, je pense que c'est lui qui se la donne à lui, la commande. Moi, j'ai besoin d'être sollicité par les autres pour rentrer dans ma forme artistique et pour rentrer dans ma compréhension et ma construction du monde et de la façon dont je vais restituer ça.
Voilà, vous faites ce beau métier d'interprète.
Donc moi, je suis effectivement du côté de l'interprétation. Il y a une part d'artistique en soi quand on est dans l'interprétation. Il faut il faut absorber le monde et vouloir le restituer d'une certaine façon. Mais je trouve que
vous n'êtes pas à l'origine du projet.
Mais ouais. Je ne suis pas à l'origine du projet.
Je comprends ce que vous voulez. Cette petite nuance que vous faites. Il y a la peinture qui est rentrée dans votre vie, il y a aussi la musique très tôt, parce qu'à Courbevoie, je pense que Gilles Bénard, ami d'enfance, c'est la même chose, il y avait Piaf qui courait à la fois dans le transistor des parents et peut-être même dans les rues quand les gens fredonnaient ses chansons, Jean-Pierre Darroussin.
Oui, c'était même pas le transistor, hein, c'était le vieux poste avec les petites lumières qui s'allument doucement, un poste à lampe, quoi.
Le père étameur, hein, qui couvrait le métal d'étain, il écoutait Piaf.
Oui, il écoutait Piaf, il écoutait toutes les chanteurs de cette époque-là. Ça pouvait être Georges Guettari ou André Claveau, ou des gens comme ça, bien sûr. Des gens qu'on n'écoute plus. Mis à part Piaf, je vois que Piaf, ça continue à... Je débarque souvent dans des restaurants où la bande sonore, c'est Piaf. Voilà, souvent, ça arrive souvent.
Vous ne dites rien, mais vous avez une petite nostalgie, peut-être, à ce moment-là ?
J'arrive pas tout à fait à me sentir nostalgique, parce que je pense qu'il y a des éléments du passé qui restent de toutes les époques et qui restent toujours contemporains.
Vous pensez à quoi ?
Justement à ça, par exemple, ces chansons-là qui ont rassemblé à une époque des émotions et des sensations de leur époque, mais qui continuent. Voilà, si on écoute une chanson de Piaf encore à l'heure actuelle, on n'a pas l'impression que ça soit un truc si vieux que ça, alors que ça remonte quand même à plus de 70 ans.
Il y a quand même un hyper-réalisme qui n'est plus tellement en cours.
Oui, enfin quand même, je je trouve que la foule, par exemple, c'est pas mal reprise, c'est une chanson qui pourrait être tout à fait du rap actuel, enfin voilà.
Et quand vous êtes ado, eh ben le rock est là, et le renouveau du rock avec les Stones, c'est important, avec les Beatles aussi, et Jean-Pierre Darroussin fait partie de ces personnes qui ne font pas de différence et qui ne choisissent pas les Beatles contre les Stones, qui prend les deux.
Non, c'est une de mes devises, parce que j'en ai plusieurs, hein, s'il y en a qui sont pas contents, j'en ai d'autres.
Alors c'est quoi votre devise ?
C'est l'un n'empêche pas l'autre.
Ah, vous pourrez nous en donner comme ça tout au long de votre grand atelier. Alors pour se faire plaisir et pour vous faire plaisir, Jean-Pierre Darroussin, on va écouter les Stones, Get Off My Cloud.
Super.
C'est l'époque Satisfaction, c'est 1965. We'll be right back.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
C'est le comédien Jean-Pierre Daroussin qui est avec nous dans le Grand Atelier cet après-midi avec un ami d'enfance, Gilles Bénard. Je trouve ça beau de venir avec un ami parce que d'autres artistes choisissent tel écrivain parce qu'ils aiment son œuvre. Vous vous dites, j'ai envie d'une certaine manière de célébrer l'amitié Jean-Pierre Daroussin
oui,
par ce geste.
Oui, mais aussi célébrer aussi une œuvre.
Multiple.
Une œuvre multiple. Non, mais parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, que j'avais envie de mettre en exergue en invitant Gilles, quel est le trajet pour atteindre l'objet de son désir? Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment ça se construit dans
Bien
la vie
sûr.
D'un individu? Comment on arrive à trouver les éléments qui font qu'on fait un chemin, qu'on explore sa propre piste et tout ça. Et donc Gilles, pour moi, est un exemple assez formidable. Je l'ai connu, il était mécanicien. D'abord, je l'ai connu en étant élève. On était des élèves ensemble.
Dès le collège. Hein.
Au collège, lui, il faisait du rugby, on faisait des machins, tout ça. Et même, il avait un petit truc, il était déjà un petit peu bistrotier parce qu'on avait créé un théâtre dans lequel on faisait des spectacles et lui, il tenait le bar. Donc déjà, il y avait une... Il faisait de la politique, on a créé des pas mal de choses ensemble, comme une coopérative de coursiers, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. On a vécu ensemble, comme on disait à l'époque, en communauté. Alors que maintenant, on dirait en coloc, mais on était en communauté, on vivait ensemble. Et après, il était représentant en informatique, il a fait pas mal de choses. Puis d'un seul coup, il a voulu ouvrir des cafés, enfin un café, un restaurant, café-restaurant. Petit à petit, ça a eu du succès. Il a monté des restaurants qui ont marché. Il est devenu quelqu'un qui a amené un peu la mode du vin nature sur Paris. Hein, on peut dire ça comme ça, hein, parce que c'est vrai que tu t'es démené pour faire connaître le vin nature dans les bistrots parisiens. Ça a fait que ça a quand même pas mal pris. Et puis, petit à petit, t'es arrivé au moment de la retraite, ils vont à son restaurant et il devient psychanalyste. Donc, c'est après avoir évidemment fait tout le trajet pour ça. Donc, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui fait dès le début, dans l'adolescence, quand on s'est connu, où est la source de ce désir-là de faire ce trajet comme ça. Donc c'est moi qui pose la question, c'est moi le journaliste.
Vous avez tout à fait raison, moi j'aime beaucoup quand l'invité prend le micro et interroge, surtout qu'il interroge un psychanalyste, là, Jean-Pierre Daroussin. Est-ce que vous avez une idée justement de ce qui vous conduit vers le fauteuil du psychanalyste en passant par les bistrots, les restaurants, le vin nature, Gilles Bénard?
Puisque je suis avec deux journalistes, je suis très impressionné. Je vais repartir sur Freud un moment, mais après je vais répondre plus précisément à la question. Hein. Freud, il dit, pour peu qu'on soit pas trop éloigné de son désir, dans une vie, on fait toujours et jamais que la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un continuum de ce qu'on fait. Et c'est vrai que militant politique, restaurateur et psychanalyste, il y a quelque chose de l'humanité, hein, il y a quelque chose de l'autre.
Peut-être hein. Du soin,
voilà. Alors, précisément moi, c'est que je viens d'une famille... ouvrière, et je suis un peu le seul qui suis ce qu'on appelle maintenant à la mode un transfuge de classe, un peu.
Parce que vous avez fait des études?
Pas beaucoup, j'ai pas le bac, mais enfin, lui non plus. On n'a pas fait le bac. Nous, on jetait des cailloux sur SCRS, hein, on avait autre chose à foutre que de passer le bac.
Mais 68 a été important dans votre vie à tous les deux.
Oui, on s'est beaucoup engagé, comme toute la jeunesse, avec beaucoup d'outrage, et aujourd'hui, on n'est plus en l'outrage parce qu'on est âgé, mais je voudrais signaler aujourd'hui sur les ondes qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui sont un peu outrageux, mais que sans outrage, il n'y a pas de changement dans le monde. Malheureusement, c'est comme ça, l'humanité.
Mon Dieu, il est toujours gauchiste, Gilles Bénard.
Ouais. Toujours communiste au sens des communs. C'est-à-dire que je fais attention à la communauté, aux communs, aux autres.
Hein, parce bien sûr. Je me permets de vous couper, mais c'est important d'en parler aussi. Je reviens un peu au début, à votre prime jeunesse. Vous vous engagez dans l'ultra-gauche au départ. Jean-Pierre Daroussin, dit Dada, on a le droit de l'appeler comme ça aujourd'hui, fait partie de la gauche prolétarienne avec Serge Julie, avec Alain Gesmard et d'autres.
Alors moi, j'étais dans la périphérie, tout ça, et j'étais pas directement quelqu'un de totalement engagé, puisque je me suis toujours senti un petit peu journaliste.
Ah oui.
C'est-à-dire un petit peu dans le regard et non pas totalement dans l'engagement.
Vous observiez.
J'observais.
Mais vous étiez dans cette mouvance.
Mais j'étais dans c'était cette mouvance-là qui m'intéressait de regarder.
Qui était une gauche assez violente, hein.
J'en avais pas le sentiment.
Julie le dit aujourd'hui.
Oui.
Gilles Bénard.
Parce qu'il a vieilli. Mais oui, moi j'étais à la gauche prolétarienne, oui, très engagé. Oui, il y avait une forme, oui, d'idée de violence, un peu fantasmatique. C'est surtout que c'était un vieux monde qui avait réussi après 45 avec le Comité national de la résistance, les lois sociales, etc., mais qui avait produit quelque chose qui nous sortait un peu par les yeux parce que on était plutôt dans le spirituel, nous. Et tous ces gens qui pensaient qu'à leur frigo, leur machine à laver, leur voiture, ça nous les brisait un peu, quoi. Donc, on voulait un petit peu, c'est un petit peu ça qu'on voulait renverser. C'était un peu une lutte contre les pères et contre cette façon dont ils avaient fait un monde qui était pas si mal, mais on aspirait d'un seul coup à du rêve, à du spirituel, à des grands espaces poétiques.
C'était ça aussi votre désir, Jean-Pierre Darroussin ?
Oui, en tous les cas, évidemment que le mot commun et le mot collectif, c'est quelque chose qui était très important. Tout autour de nous était collectif. Moi, j'ai vécu et j'ai grandi dans un milieu qui soit paysan, où je voyais les paysans qui s'entraidaient, il y avait la batteuse, il y avait des choses comme ça, chaque paysan donnait de son temps pour aller aider son voisin, et c'était normal, le monde était constitué comme ça. Autour de moi, les gens qui vivaient, c'était les ouvriers dans la banlieue parisienne, tout le monde se donnait un coup de main pour aller construire la salle de bain d'un tel, pour aller le dimanche aider à refaire la toiture de chez quelqu'un, tout ça. Enfin, il y avait une espèce de solidarité tout à fait naturelle. Le mot collectif était important, et puis nous, même dans notre jeunesse, tout était groupe. On parlait du rock tout à l'heure, on parlait des Beatles, des Rolling Stones, tout ça. Tous les artistes auxquels on s'identifiait, c'était des artistes qui étaient en groupe. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai toujours eu un désir de troupe, de travailler avec des amis, de ne pas s'attribuer totalement le mérite de quoi que ce soit, mais de se dire que tout ça n'est qu'une œuvre commune. Donc c'était ça qui m'intéressait.
Quand on tourne 19 films avec Robert Guédiguian, de Kilosa en 86 à La Pivoleuse il y a 2 ans, en passant par Marius et Jeannette en 97, c'est forcément qu'au-delà du fil artistique, il y a une réelle amitié qui vous lie.
Oui, on est liés par ce désir aussi. Depuis le début, on en avait parlé ensemble, on a passé des tas de soirées et de nuits à discuter avec Robert quand on était jeune, bien avant qu'il soit réalisateur même, dans cette idée de créer des sociétés qui nous permettaient d'avoir nos moyens de production, d'avoir notre résistance personnelle et notre groupe, de faire effectivement du collectif.
Et oui, il fait des films de groupe d'ailleurs, on peut dire ça. On écoute un extrait des Neiges du Kilimandjaro, ce film dans lequel des ouvriers marseillais partent en retraite. Ils organisent un pot de départ et puis il y a un attentat. Alors la violence va rattraper les personnages. Et puis juste après, on écoutera Guédiguian parler de votre amitié, Darroussin Guédiguian.
Bonjour les inconnus.
Tu me parles ?
Non, rien. Je me demandais qu'est-ce qu'on aurait pensé de nous assis là, comme ça, sur une terrasse, en train de boire un coup au soleil couchant.
Qui ça ?
Nous, on aurait pensé quoi de nous ? Hein ? Tu t'imagines, 30 ans en arrière, passer dans la ruelle, lever la tête, et voir deux quinquagénaires, l'air paisible, en train de siroter, de cracher leur noyau par-dessus la balustrade. Qu'est-ce qu'on se serait dit à propos d'eux ?
On les aurait traités de petits bourgeois.
On est des bourgeois. On va à la mer tous les dimanches. On est propriétaires. On regarde la télévision.
On est bourgeois, mais pas trop. Non, moi, je crois qu'on se serait dit... Ils ont l'air heureux. On se serait dit... Pour avoir l'air heureux comme ça, ils n'ont jamais dû faire souffrir personne. Ils n'ont jamais dû être indifférents aux autres.
Même en ce moment, on est toujours heureux.
C'était la seule chose à faire, Michel.
Au fond, les amitiés qui durent quand même, que je t'attendais à parler tout à l'heure, c'est quand même qu'elles ont quelque chose, il faut bien qu'il y ait un fond commun. Et je crois que le fond commun, c'est d'une part notre extraction. On vient tous, comme tu viens de le rappeler, je veux dire, de milieux extrêmement, extrêmement modestes. Mais en plus de ça, on est resté fidèle à ce milieu-là, on le revendique, on l'affiche. Et on continue, je pense, à défendre, à être les représentants, les avocats, les défenseurs de ce monde-là.
Entendre la voix de Robert Guédiguian, c'est toujours quelque chose d'émouvant, Jean-Pierre Darroussin. Et puis entendre aussi son écriture, hein. C'était beau ce qu'on a entendu là.
Oui, oui, l'extrait montre à quel point ce film reste un film extrêmement fort.
Est-ce que vous vous êtes posé, comme dans le film, Michel, votre personnage, la question de la bourgeoisie? Est-ce que vous êtes devenu, en étant célèbre, un bourgeois, Jean-Pierre Darroussin?
Oui, bien sûr que je suis devenu un bourgeois, parce que j'ai acquis des moyens financiers, parce que j'étais bien payé dans ma vie pour faire mon métier. J'ai acquis des moyens financiers qui, évidemment, me mettent dans une catégorie où j'ai échappé à une certaine précarité. Et voilà.
J'ai presque envie de vous demander, parce que le micro, ça donne du culot à celui qui pose des questions, ce que vous faites de votre argent.
Je suis propriétaire de là où j'habite. C'est déjà une chance, c'est déjà pas mal. Oui, j'ai une vie assez. J'ai le luxe de ne pas trop regarder mon compte en banque, de ne pas trop regarder qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et puis voilà.
Donc Simone Signoret disait le luxe, c'est de rentrer dans un magasin et de dire je veux ça. Sans savoir le prix.
Oui, alors j'en suis pas là. C'est des moyens plus modestes que Simone Signoret à l'époque, parce que voilà.
Mais est-ce que vous mettez aussi de l'argent, je vais pas vous demander, dans des associations, ça c'est votre vie privée, mais dans des productions, est-ce que vous aidez des films à se faire, est-ce que il y a aussi cette passion-là chez Darroussin?
Alors c'est pareil, j'en suis pas là. Pour faire ça, il faut faire profession de s'enrichir. Moi, je gagne ma vie. Je ne gagne pas ma vie au point de s'enrichir et de faire des investissements pour créer des... Je gagne ma vie de façon à avoir une vie très confortable, mais pas au point de pouvoir continuer à faire de l'argent avec de l'argent.
Vous n'êtes pas encore Alain Delon.
Non. Voilà.
Je voudrais revenir à votre jeunesse, puisque c'est quand même là que tout démarre, à Courbevoie. Quand vous devenez comédien, il y a d'abord le cours Florent, Jean-Pierre Darroussin, la rue Blanche, le conservatoire. Vous faites un parcours classique, mais qu'est-ce qui déclenche l'envie de devenir comédien? Vous parliez du chemin qu'on suit dans une vie. Qu'est-ce qui vous amène sur ce chemin-là?
C'est vrai que tout le temps, j'ai eu une expérience quand j'étais à l'école primaire en CM1.
Vous jouiez quoi, le Petit Prince?
Non, on m'a fait jouer le Malade imaginaire de Molière. Je jouais le rôle d'Argan, alors pas toute la pièce évidemment, mais quelques scènes. Et voilà, j'ai fait ça. Et après, je pense que j'ai dû ressentir le fait que d'un seul coup, les gens avaient de la considération et que j'étais écouté, que je pouvais capter l'attention de mes camarades. En faisant ça. Comme j'étais plutôt d'un naturel discret, réservé et plutôt très timide, la scène, le théâtre, j'ai toujours senti que c'était l'endroit où j'étais protégé. J'avais le droit de faire le guignol ou de faire des bêtises. C'est vrai Gilles faisait référence à mon père tout à l'heure, qu'il a bien connu et que c'est quelqu'un qui reste inspirant et tout ça. Et lui, il l'avait assez senti assez vite, puisque quand je travaillais avec lui et que je me posais la question de savoir si j'allais justement prendre des cours de théâtre et tout ça, que j'en discutais avec lui, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, mais tu devrais faire ça, quand t'es sur scène, c'est comme si t'étais en chaussons.
Formidable. Ça c'est un déclencheur.
Voilà, ça c'est un déclencheur. Ouais. Voilà.
Et vous vous souvenez du moment où Jean-Pierre, votre ami Dada, vous dit « Je vais être comédien. » Gilles Bellard.
Oui.
Racontez-nous ce moment.
Oui, je vous raconte. Je voudrais juste faire un petit insert avant pour revenir sur ce que disait Robert et sur le fait d'être un bourgeois, juste. Même si Marx, il dit qu'on est de toute façon le produit de sa classe, d'une certaine manière. Mais c'est pas grave de devenir un bourgeois, c'est avoir un peu de pognon, quoi. Le tout, c'est de pas intégrer les idées de la bourgeoisie. Ouais. On va pas parler de psychanalyse.
Ce qui m'intéresse dans l'analyse, Gilles Bénard notamment, c'est que tout à l'heure, Jean-Pierre Darroussin disait qu'il était observateur quand il était à la gauche prolétarienne. Vous étiez plus actif. Est-ce que vous êtes aussi observateur quand vous êtes psychanalyste? Est-ce que c'est la même position?
L'émission dure combien de temps?
Je vous laisse 35 secondes.
Ah, je croyais que c'était 35 minutes. Non, on n'est pas observateur, analyste, on est écoutant.
Écoutant.
C'est autre chose, quoi. Mais vous aviez posé une autre question, du coup je suis reparti sur Robert. Comment je me rappelle... Je me souviens qu'il travaillait, et moi aussi je travaillais d'ailleurs un peu avec ton père, à l'atelier d'étamage. après avoir joué au théâtre, au lycée, au collège, à l'école primaire, enfin, etc., fait des trucs et tout, qu'un jour, je crois que t'as dû dire à ton père, je crois que je voudrais devenir comédien, quoi. Et que la chance, son père, c'était notre père à tous. Hein.
Oui, vous l'aimez beaucoup.
On avait...
Paul Daroussin.
On avait pour lui, c'était comme un père pour beaucoup des copains, que ça soit Patrick Bonnel, qui avait perdu son papa jeune, que ça soit Christian, qui avait un père épouvantable, un autre copain, Christian Laure, enfin, la bande des 4-5 qu'on était, son père, c'était un peu le père à tous, et quand t'as dit ça à ton père, je me souviens qu'il a dit quelque chose, je me rappelle plus exactement, si tu fais ça, tu le fais vraiment sérieux, pour devenir quelque chose, quoi, enfin, faut que t'habites ça de ta vie, quoi, et que, il a dit, je peux te payer un appartement, je peux t'aider, enfin...
Payer un appartement, peut-être pas.
Non, mais louer.
Non, mais oui, louer. Enfin, en tous les cas, m'aider.
Il t'a aidé au départ.
Il m'a dit, si tu fais les écoles d'État, je t'aiderai.
Alors que tous les gens de ces années-là, des années 60, quand vous disiez que vous vouliez devenir chanteur, poète, acteur ou musicien, ils disaient, tu peux pas faire un vrai métier, imbécile.
Jean Rochefort a dit qu'il s'était sauvé de chez lui parce que ses parents voulaient pas en entendre parler. Bien sûr. On a encore envie de vous écouter en tant que comédien, notamment dans Un air de famille, réalisation Clapiche, mais ça vient d'un scénario de Jaoui Bakri et Clapiche, et vous êtes un serveur de café, le père tranquille d'ailleurs, oui. Je crois qu'il s'appelait, l'employé du patron qui est Bakri, Jean-Pierre Bakri, et vous êtes aussi en secret l'amant de Betty, Agnès Jaoui. On écoute un extrait entre vous et une de vos amies de conservatoire, Catherine Fraud, la belle-sœur du patron.
Caruso. Pourquoi il s'appelle Caruso, vous le savez, vous ?
Ah, parce qu'il chantait à une époque. Avant d'être paralysé, là, il avait une voix de ténor, alors il l'a appelé Caruso. C'est son chanteur préféré, Caruso, au patron.
Ce chien-là, il chantait ?
Oui. Enfin, il faisait... Non, il chantait ce qui lui venait. Mais à partir du moment où il a eu son arthrose, il n'y avait plus rien. Ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça, et il s'est arrêté net. Enfin, c'est pas grave, un chien, c'est pas fait pour chanter, de toute façon.
Oui, mais enfin, c'est fait pour courir quand même, à plat ventre, sans rien faire, comme ça, toute la journée. Ça doit être insupportable.
C'est toute la journée, surtout, hein, parce qu'à plat ventre, sans rien faire, c'est plutôt bien.
Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé ?
Quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit finir par s'en apercevoir, hein.
À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça ?
C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant, quoi.
Ah oui, c'est vrai.
C'est joli ce qui se passe en studio parce que Gilles Bénard et son ami Jean-Pierre Daroussin sont morts de rire.
Oui, oui.
Vous avez du plaisir toujours à écouter la prose de Bakri et Jaoui, Jean-Pierre Daroussin.
Jean-Pierre était quand même un des types les plus drôles qui m'ait été donné de rencontrer. On a joué beaucoup, hein, au théâtre, cette pièce, on l'a joué près de 500 fois. On avait joué Cuisine et Dépendance près de 500 fois aussi. Et c'est vrai que il sortait toujours le bon mot au bon moment. C'était incroyable.
Ah ben, la preuve, c'est que quand vous recevez le César pour Un air de famille,
oui,
il dit des choses, il intervient.
Oui.
Et le César est attribué à Jean-Pierre Daroussin dans Un air de famille.
Voilà, bon, je suis enchanté évidemment que ce soit Daroussin qui l'ait eu, puisque j'avais voté pour lui, vous devez vous en douter. Et je ne comprends pas trop le principe de la standing ovation, je croyais qu'il y en aurait une pour lui aussi, mais bon. Faudra qu'on m'explique en vertu de quoi on se lève et quand on ne se lève pas. Parce que... bon, enfin, moi, je me serais bien levé pour Jean-Pierre Daroussin, qui est ton ami.
On va tous se lever pour Jean-Pierre Daroussin.
Et non, c'est un type que j'aime beaucoup, et donc je serai enchanté de lui remettre ce César, et je vous souhaite une bonne soirée.
Au revoir.
Voilà, c'est ça.
Il avait aussi ce côté-là, hein, un peu ronchon, mais là c'est magnifique parce qu'il vous dit je t'aime, Jean-Pierre Daroussin.
Oui, mais de toute façon, c'est quand même un homme engagé, hein, à sa façon.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire qu'il avait le verbe très facile pour mettre en exergue les contradictions en face de lui. Et il se laissait absolument pas faire, il se laissait pas embrouiller par la puissance des mots et qu'il pouvait exercer le pouvoir sur les gens. Il décryptait tout de suite là où était le piège dans le langage.
Est-ce que c'était aussi une famille ? On a employé ce mot pour la famille Guédiguian, à laquelle vous appartenez, c'est-à-dire une troupe d'amis. Est-ce qu'il y avait aussi ce côté-là chez Jaoui Bakri ?
Alors, ça l'a été pendant tout le temps, quand même ça a duré assez longtemps, où on a joué... où on a joué ces pièces pas mal. Et puis après, je pense que le désir n'était pas de créer une troupe. Donc ça s'est arrêté, voilà.
Mais sans fâcherie?
Sans fâcherie du tout, bien sûr.
Quand non, vous voyez Agnès Jaoui, vous vous claquez la bise.
Oui, on se serre dans les bras, bien sûr.
Mmh. On va écouter Lana Del Rey, une nouvelle chanson assez polar des années 50, je trouve, un peu une chanson noir et blanc. Et on va continuer de parler avec vous, Jean-Pierre Daroussin, et votre ami qui a fait tellement de métiers, qui est aujourd'hui psychanalyste, mais qui a été aussi patron de bistrot et de restaurant, Gilles Bénard. Lana Del Rey sur France Inter.
Here's my white feather hawktail deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on a screen John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. In the dark, snap, crackle, pop. Positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather hawktail deer hunter. Take my hand off the stove, hun. Yeah, you dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do. Know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawk-tailed deer hunter. Before I met him, wore a bow over three summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together. But it's been three summers. I know it's strange to see me cooking for my husband. But it's positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather hawktail deer hunter. Take my hand off the stove, hun. Whoopsie daisy, yoo-hoo, I imagine you do. Know how absolutely bad I'm with an oven. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy, to post a sugar cane. Yanks like me, we should have saved for a friend. Stick with picking daisy's face again. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy, to post a sugar cane.
C'était Lana Del Rey dans le grand atelier du comédien Jean-Pierre Daroussin.
Le grand atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Qu'est-ce que t'as ?
Moi ? Qu'est-ce que tu veux que j'aie ?
Pourquoi tu fais la tête ?
Je fais la tête ?
Oui, tu fais la tête.
J'ai chez moi l'homme au masque de fer doublé du mystère de la chambre jaune.
Tu as tort de t'inquiéter.
Si tu sais quoi lui dire, va lui parler, toi.
Oh, je ne sais pas, moi, c'est à toi de trouver les mots. Il t'a toujours écouté, toi.
Il y a 45 ans. Ce qui a été, et rien ni personne ne pourra le changer.
Ce qui est fait, est fait.
C'est l'histoire d'un couple d'octogénaires. Lui souffre d'un mal de dos chronique et d'une vue très faible. C'est vous, Jean-Pierre Daroussin. Elle est équipée d'un appareil auditif et d'un appareil dentaire. C'est Christine Murillo. Ils n'ont pas la vie facile, d'autant que leur cinquantenaire de fils est revenu vivre chez ses vieux. On ne le voit pas. Il est enfermé dans sa chambre. Et ce retour, ça les ennuie. C'est comme ça qu'est présentée la pièce Dans le couloir de Jean-Claude Grimbert que vous créez avec Christine Murillo. Alors Grimbert, c'est l'auteur de L'Atelier, c'est l'auteur de La plus précieuse des marchandises. On dit pas non à une nouvelle pièce de Jean-Claude Grimbert, Jean-Pierre Darroussin.
Voilà, exactement. C'est un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. J'ai lu pas mal de ses textes. Je l'ai vu jouer il y a très longtemps. Il y a un endroit précis où il intervient avec beaucoup de poésie dont il a réussi à adapter le théâtre de l'absurde d'une époque qui était qu'on a catégorisé, parce qu'on a toujours tendance à vouloir mettre des noms pour catégoriser, ranger les choses dans des tiroirs et tout ça. Donc on a mis Beckett, on a mis Ionesco dans le théâtre de l'absurde. Parce que, c'est parce que c'est des gens qui écrivaient à une époque qui avaient un sentiment de l'absurdité de la vie. Là, à un moment donné, c'est la vie qui est absurde, et donc il y a des gens qui en tiennent compte. Jean-Claude Grimbert, il a réussi à avoir sa propre musique, sa propre fantaisie, son ton à l'intérieur de ce qu'il considère aussi, lui, comme une espèce d'absurdité de la vie, parce que, il y a des circonstances. Sa vie a été marquée, je pense, par le fait que son père soit mort dans un camp, et que donc il était orphelin. Voilà, il était au bord d'un vertige, et donc il a créé de l'absurde, mais surtout du comique. Voilà, ce comique qui est toujours au bord du précipice, quoi. Voilà, au bord de quelque chose qu'on ne comprend pas, au bord d'un néant dans lequel on pourrait tomber, et on est en équilibre, on reste en équilibre, et c'est l'essence même du comique, à mon avis.
Jean-Claude Grimbert qui parle bien de cet humour que vous citez à l'instant, Jean-Pierre Darroussin.
Il y a encore des gens qui écrivent bien, qui sont des philosophes, qui écrivent pour le théâtre. Après, l'humour, c'est un autre problème. Donc, moi, je conçois pas qu'on parle du monde d'aujourd'hui sans y mettre un peu de consolation, c'est-à-dire un peu d'humour. Si c'est pour dire ce qu'on entend toute la journée, l'horreur qu'est devenu ce monde, ou qu'il n'a pas cessé d'être, on n'en a pas d'autre, autant en rire, quand on peut. Et sinon, on pleure.
Voilà, on voit sa tournure d'esprit, son style, l'horreur qu'est ce monde ou qu'il n'a pas cessé d'être. Voilà. Mmh. Cette façon de tourner les phrases est propre à lui et c'est ce qui fait, je dirais, son burlesque. Car je pense que c'est un auteur burlesque.
Moi, j'ai ri en venant vous voir, alors que c'est une situation dramatique. Ce fils enfermé dans sa chambre, les parents qui ne le voient pas, et une issue que les spectateurs découvriront.
La surprise fait partie de l'écriture. Hein, donc.
Je me tourne à nouveau vers le psychanalyste que vous êtes. Vous n'êtes pas que ça. On a bien compris que vous aviez une vie très riche et qu'elle n'est pas terminée. Mais quand j'entends Grimbert dire « il faut mettre un peu de consolation dans ce monde difficile », il entend l'humour, vous avez acquiescé en disant « c'est très beau ». Est-ce que vous essayez de mettre un peu de consolation dans nos vies, Gilles Bénard ?
Psychanalyste ou pas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Quand j'ai lu Gramsci et que je me suis rappelé, Antonio Gramsci, je me suis rappelé qu'il disait « je suis un pessimiste de la pensée, mais un optimiste de la volonté ». C'est-à-dire que, oui, c'est épouvantable, oui, il y a la pulsion de destruction, effectivement, c'est redonner aux gens, de manière ou d'une autre, le goût de penser que leur vie, ça vaut le coup. Et là-dedans, l'humour, Freud en a fait un livre, de Wiest, l'humour, là-dedans, nous, qu'est-ce qu'on s'est marré, quoi, toute notre bande. On n'a pas arrêté, on n'arrêtait pas dada un humour. On a un peu le même humour de l'absurde. On se raconte des histoires quand on chope une histoire drôle qui est complètement dans le décalage de l'absurdité, on s'appelle pour se la raconter parce que c'est le truc qui nous fait vraiment rire et qui nous donne de la consolation, effectivement.
Vous êtes un comique dans la vie aussi, Jean-Pierre Darroussin ?
Oh oui.
Je me trouve un peu trop sérieux, mais quand même, je vois que les gens rigolent, je comprends pas pourquoi.
Mais ça vous fait plaisir.
Voilà. Oui. Hein?
Vous savez ce que dites-vous et de Christine Murillo, votre partenaire à la scène, Jean-Claude Grimbert, il dit « ce sont deux complices experts en rire et spécialistes du malheur humain ».
Oui, voilà, c'est un peintre magnifique, Grimbert, en deux coups de pinceau, il vous torche un portrait, donc voilà.
Est-ce que vous avez fait une psychanalyse, Jean-Pierre Darroussin ?
Non, j'ai jamais fait ça, mais voilà, il paraît que j'en ai pas besoin parce que justement, je suis dans la sublimation artistique puisque je me confie à des tas de personnages dans lesquels j'essaie de me glisser derrière les yeux. Mon cerveau devient quelqu'un d'autre assez souvent et donc, à partir de là, peut-être que j'arrive à accumuler un certain nombre d'émotions qui restent en moi, que je n'ai pas envie qu'elles s'échappent pour m'en libérer. Je n'ai pas envie de me libérer de tout ce qui m'accable.
Pour que ces traumas ou ces névroses soient au service du rôle et du personnage.
Absolument.
Ça vous suffit ?
Bah, en tous les cas, c'est ma vie. C'est comme ça qu'elle s'est construite.
Ah oui, la sublimation, c'est vraiment, c'est encore quelque chose de très freudien, hein, mais la sublimation, c'est vraiment quand on peut, et notamment, c'est une des fonctions de l'art, hein, des résultats de l'art. La sublimation, c'est ce qui rapproche le sujet de son être de désir. Donc, ça le soigne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de faire une analyse parce qu'ils arrivent à s'auto-soigner par des processus, et notamment le beau, on y revient, et l'art.
Vous êtes soigné par quoi, vous, Gilles Bénard ? Je rappelle que vous êtes passé d'ouvrier à, alors je raccourcis un peu, à bistrotier et patron de restaurant. Vous êtes l'un des hommes qui apporte le vin nature en France. Et puis, vous êtes psychanalyste. C'est quand même un chemin fou, rare, presque inédit.
Contre une colère, grâce à une colère, pardon, que j'ai fini par savoir adresser, et pas l'adresser au mauvais endroit, et puis aussi par l'humanité qui me touche, donc l'amour.
Jean-Pierre Darroussin, il a parlé du jeune Darroussin devenu comédien, Gilles Bénard. Comment vous avez vu, vous, son évolution, qui encore une fois n'est pas habituelle ?
Il a eu une énergie, effectivement, là il parle de colère, mais il y a une volonté d'imposer à lui et aux autres sa vision du monde. Alors, on peut le faire, moi c'est ce que je fais aussi, en créant des personnages, des trucs comme ça. Ma vision du monde me traverse et je la restitue. Et lui, c'est vraiment à travers c'est la maîtrise du langage qui, je pense, qui l'a intéressé. Et cette maîtrise du langage l'a amené à traverser tout un tas voilà, un chemin tortueux pour en arriver à écouter les autres.
Vous écoutez les autres aujourd'hui, et vous, Jean-Pierre Darroussin, vous aimez jouer les auteurs d'aujourd'hui, que ce soit au cinéma, on a cité Jaoui Bakri, oui. Guédi Guillaume, bien sûr, 19 fois au cinéma, et puis les auteurs d'aujourd'hui, même si vous savez jouer des classiques et vous l'avez prouvé. Mais pourquoi il y a ce désir d'être contemporain avec votre contemporain ?
Parce que je pense que je suis plus éloigné des préoccupations, même si évidemment on peut toujours tirer que ça se ressemble et qu'il y a des correspondances dans les écritures du passé, mais je vois quand même que les auteurs contemporains sont touchés par ce qui me touche aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'intéressent, parce que c'est proche de moi dans le langage, c'est proche de moi dans la recherche du moment. Ils tiennent compte de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils traversent tous les jours en passant devant des magasins, en écoutant de la musique, en écoutant là. Tout ça, ils restituent ça dans leur écriture. C'est ça que j'ai envie de porter. J'aime beaucoup Molière, j'aime beaucoup Shakespeare, j'aime beaucoup Marivaux, je suis en admiration totale devant Tchekhov. Alors Tchekhov, c'est déjà encore autre chose parce qu'il est traduit et donc on peut tout le temps contemporaniser son écriture.
Ça m'étonne pas que vous aimiez Tchekhov, il y a une forme de mélancolie commune.
Oui, bien sûr, Tchekhov, c'est... Si on me demande quel homme vous auriez aimé être, bien qu'il ait vécu assez peu de temps, et que moi ça m'intéresse de vivre longtemps, je pense que Tchekhov est certainement le type qui, pour moi, le mieux senti, c'est l'âme humaine, quoi. Il y a quelque chose de lui, c'est le représentant de, voilà, il a l'âme de Tchekhov, c'est quelque chose que j'ai envie d'attraper quelque part. Si elle circule, j'ai envie de la choper, quoi.
J'ai bien compris que vous aimiez jouer les auteurs contemporains, mais si un metteur en scène vient avec une pièce de Tchekhov pour vous proposer un rôle, quelle pièce aimeriez-vous dans un monde idéal?
J'ai joué Oncle Vania, j'ai joué la Mouette, j'ai pas joué dans la Cerisée, ça peut être bien, la Cerisée.
Non, mais si Alain Françon nous écoute, c'est une idée.
Il l'a déjà monté, je pense qu'il va le remonter.
Je vais essayer ceux qui fument, à ceux qui boivent, à ceux qui hument, à ceux qui font des baisers à la russe. Soulevez la table et tout casser, brûlez la flamme sans s'immoler. Au soleil, une vallée de fleurs et de miel. Je dédie cette danse à l'amertume, à l'impudence, à l'habitude, à ce cœur lourd qui bat sous la brébuste. Je dédie cette danse à ceux qui fument, à ceux qui boivent, à ceux qui hument, à ceux qui font des baisers à la rue.
Soleil, soleil profond. Benjamin Biolay, Jean-Pierre Daroussin, c'est le moment des conseils dans le Grand Atelier sur France Inter. Je crois que vous aimez un livre d'entretien qu'a fait paraître Laurent Mauvignier en même temps que La Maison Vide chez Minuit en septembre dernier. C'est un très beau livre où il s'entretient avec une dame qui s'appelle Pascaline David. Qu'est-ce que vous pensez de ce bouquin? Pourquoi est-ce qu'il faut le lire?
On m'a demandé de quel était mon coup de cœur. Et ce coup de cœur, il date de 2 jours. donc c'est très récent. Je n'ai même pas eu le temps encore de finir le livre. Mais dès les premières pages, j'ai senti que ce livre était pour moi. Qu'est-ce qu'on a rassemblé? Quel est le chemin qu'on fait, qu'on explore pour aller toucher quelque chose que l'on cherche, sans savoir exactement pourquoi on le cherche, mais qu'est-ce qui nous anime pour tout le temps essayer de progresser, pour se compléter, pour occuper son espace, sa volonté propre et tout ça. Donc ce livre raconte ça exactement, et il se trouve que quasiment je pleurais à chaque page. Donc je me suis dit, c'est vraiment ce livre me touche très très profondément, et ça fait des années et des années que j'ai pas lu un livre où je pleurais à chaque page.
Est-ce que vous pleurez facilement, Jean-Pierre Daroussin?
Alors oui, il faut reconnaître que oui, j'ai une petite tendance à avoir beaucoup de choses m'émeuvent, oui.
Avec l'âge?
De plus en plus, hélas, oui.
C'est plutôt touchant, moi je trouve, de vous voir un petit peu larme à l'œil. Ça s'intitule « Quelque chose d'absent qui me tourmente », vous allez lire aussi sa maison vide, le Goncourt.
Oui, je veux pas manquer ça.
Et puis moi, je vous appelle à devenir juré du Livre Inter, parce qu'il est président, Laurent Mauvignier, et puis vous allez prendre beaucoup de plaisir à lire des romans, 10 romans, à délibérer tous ensemble. Il vous reste une semaine pour faire acte de candidature en allant sur franceinter.fr, en nous écrivant à France Inter, Livre Inter, Paris 16e. Vous avez le choix, soit la lettre classique. Donnez-nous envie de vous connaître, vous nous dites ce que vous lisez, vous nous dites qui vous êtes, c'est pas facile, je sais, mais essayez de nous convaincre que vous êtes le ou la bonne jurée, le ou le bon juré. Vous avez jusqu'au lundi 16 mars inclus, et pour plus d'infos, vous allez sur franceinter.fr. Le conseil de Gilles Bénard, c'est d'écouter qui? C'est d'écouter des disques de qui?
Réécouter Léo Ferré.
Le mot.
Au commencement était le verbe.
Au commencement était le verbe.
Faut écouter Léo Ferré, faut écouter les poètes, faut écouter, c'est les poètes qui nous guident, c'est ce que tu disais sur le langage, sur le théâtre, c'est pareil, quoi. C'est notre résistance contre l'horreur du monde d'aujourd'hui, quoi. On peut sauver le monde avec les mots, le langage et la poésie.
Vous signez ce qui vient d'être dit, Jean-Pierre Daroussin?
Je signe, je réécouterai après, mais je signe.
Le Grand Atelier, une émission qui s'écoute plusieurs fois. Je voudrais qu'on se quitte avec l'interprète des Enfants du Paradis et de Hôtel du Nord, Arletty, native de...
Courbevoie.
À 20 ans, je suis entrée dans ce métier pour me dire, je connaîtrais un peu ça, je serais montée sur les planches, j'aurais vu des acteurs, et puis je serais allée ailleurs, à l'aventure, et le théâtre m'a retenue.
C'était seulement de la curiosité.
Absolument. Absolument.
Pas une vocation, pas une passion.
Alors ça, pas du tout. J'y suis restée, après, très vite par amour. Parce que c'est un merveilleux métier de femme.
Vous vous rappelez Courbevoie ?
Ah oui, bien sûr. Courbevoie, j'aime Courbevoie.
Arletty Jean-Pierre Darroussin, natif comme vous de Courbevoie et comme votre ami, ici présent, Gilles Bénard, entré par curiosité dans le métier et puis la passion lui est tombée dessus. Est-ce que c'est un petit peu la même chose
pour
vous ?
Oui, c'est à peu près le même trajet. Évidemment que quand je suis rentré, quand j'ai poussé la porte du cours Florence, qui était un petit peu une officialisation pour moi de faire l'effort d'aller vers ce désir-là. C'était par pure curiosité, oui, absolument. Et j'étais pas la vocation, elle devait être là, mais je pouvais pas totalement l'identifier parce que ce n'était qu'un passe-temps et qu'il y avait autour de moi personne qui faisait ça. Donc je n'avais pas de figure qui pouvait me faire dire que tiens, c'était une voie possible. Donc ce n'est vraiment venu que petit à petit, quoi.
Jean-Pierre Darroussin, vous êtes à l'affiche de Dans le couloir, Théâtre Héberto, où a été créé il y a 30 ans l'atelier, oui, de Jean-Claude Grimbert, que vous retrouvez donc aux côtés de Christine Murillo. Je vous remercie d'être venu et d'être venu avec votre ami. Il s'est dit de belles choses et j'ai l'impression d'avoir interviewé des hommes heureux. Ça fait très plaisir.
Ah oui.
Stéphane Combe a réalisé cette émission préparée avec Marion Guilbault, Anaïs Boucher, Valentine Chédebois à la programmation musicale et à la technique, Raphaël Rousseau. Rendez-vous samedi s'il vous plaît à 17h dans la balade de Swann Massy et dimanche dans le grand atelier du comédien Jacques Bébert.